demain 14h avec la gang dans le retour.
Dans la catégorie « Je peux pas croire que les animateurs gagnent leur vie à faire ça », les nommés sont...
Pourquoi la schtroumpfette est toujours heureuse et souriante?
C'est...
parce que le gazon est long au village.
Il aurait fallu être aux Galeries de la Capitale ce jour-là.
Mais
soyez pas des princesses. Quand tu croises quelqu'un qui a vidé ses 6 bières au cours, tu lui dis « Yo, gaucho! »
T'es en mode survie, t'as rien à manger.
Ouais, je pense que je mangerais gravel en premier.
Hey, j'ai dit...
Hey, hors contexte, c'est weird.
Oui, c'est correct.
Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication. Arr! Et j'espère qu'ils écoutent pas trop souvent, sinon ils vont pogner un 2 minutes. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir et je vous présente mon invité d'entrée de jeu. Son nom, c'est Billy Tellier. C'est un humoriste qui est en place depuis plusieurs années. C'était sa première hier soir. Puis il s'est dit, tiens, je vais passer par Québec pour jaser avec les gens de Québec aussi. Salut, Billy!
Hello!
Je te connais pas pantoute!
Ben, on a le temps!
Je voyais ta belle gueule à la télé, je t'entendais une fois de temps en temps en entrevue, je trouvais que t'étais un personnage intéressant, mais j'ai jamais eu la chance de voir tes spectacles. Puis là, je me suis dit, OK, Billy Tellier s'amène à Québec, je vais l'avoir en entrevue. Fait que j'ai été voir les vidéos de toi qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, puis j'ai été agréablement surpris de la personne que tu es, puis des histoires que tu nous racontes. Fait que j'imagine que hier, lors de ta première, ça a bien été pour toi. Là. Je sais qu'il y avait des humoristes qui font partie de tes amis qui se sont présentés. Sais-tu, quand la première finit, là, ça fait-tu du bien personnellement? Là, OK, enfin, elle est faite.
Ouais. Tu sais qu'il y a tout le temps une première à Montréal. Il y a celle à Québec qui s'en vient le 20 février, mais que ce soit Québec en premier ou Montréal en premier, peu importe, la première, il y a une tension qui se lâche, puis tu fais OK, là, on part la tournée, c'est officiel. Puis ça a tellement été le fun hier, ça a bien marché, la réponse était magnifique. Fait que je suis vraiment confiant puis content de ce show-là.
Quand tu as commencé ta carrière, tu souhaitais-tu que les gens que tu connais ne soient pas dans la salle? Tu souhaitais-tu que tes collègues humoristes ne soient pas là? Souhaitais-tu qu'il n'y ait aucun journaliste dans la place?
Encore aujourd'hui.
Ah ouais?
Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à... pas nécessairement les journalistes, parce que je comprends le principe, je comprends le travail. C'est plus les membres de ma famille que ça me stresse. C'est pour ça qu'ils attendent tout le temps la première. Ma blonde n'avait pas vu le show avant la première. Ma mère n'avait pas vu le show avant la première. Je dis ma mère parce qu'elle a j'ai un numéro sur elle dans le spectacle. je voulais voir si elle allait me déshériter ou pas. Mais j'aime pas que les gens viennent avant que le produit soit fini.
Okay.
Ça me dérange beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je suis fait comme ça. Même mon gérant, ça m'énerve quand il vient me voir avant que j'aie l'impression que le show est quand même assez placé. Parce que c'est comme quand tu fais une recette puis les gens veulent goûter avant. T'es comme non, mais attends, là, c'est pas tout assaisonné. Là, tu vas me dire il manque des éléments. Oui, ben je sais qu'il manque des éléments.
Ouais.
Fait que laisse-moi finir de cuisiner, puis quand je vais sentir que c'est prêt, tu pourras venir.
Puis ta mère, dans les dernières heures, t'as-tu déshérité finalement?
Non, ça a bien été.
Elle t'appelle-tu encore mon fils ou elle t'appelle l'inconnu?
Non. Écoute, je pense qu'elle a déshérité ma soeur finalement. J'étais tellement drôle qu'elle s'est dit je donne tout à cet enfant.
Ouais. Ça fait combien d'années que t'es dans le monde de l'humour?
Je suis sorti de l'École nationale de l'humour en 2002. Fait qu'on parle d'un 23 ans.
23 ans.
Ouais.
Puis avec du recul, est-ce que tu reprendrais la même trail?
Je pense que oui. J'aurais de la misère à la reprendre parce que je sais les sacrifices que j'ai faits.
Ouais.
Moi, j'ai fait de la radio le matin à Montréal.
Ça, c'est pas une vie, ça.
J'ai eu des enfants pendant ce temps-là et j'avais de la tournée.
Ouais.
Donc,
t'es-tu encore avec la mère de tes enfants?
Oui.
Oh, tabarouette, elle a passé au travers de ça.
Ouais, on a...
Parce que beaucoup de morning men ont perdu leur conjointe en cours de route.
Ben, je peux comprendre, tu sais. Puis j'ai un numéro là-dessus dans mon show où je parle de mon retour à la réalité les matins avec mes enfants. J'y donne tout mon respect et tous ceux qui font ça le matin, qui se lèvent pour s'occuper des enfants parce que j'avais pas réalisé. Oui, je savais, là, je suis pas niaiseux, mais j'avais pas réalisé à quel point c'est une job incroyable de gérer des enfants que tu aimes, mais que tu as quand même le goût d'étrangler le matin parce qu'ils font des crises pour une assiette qui n'est pas de la bonne couleur.
Exact. Puis la fatigue qui rentre là-dedans. J'ai eu le plaisir de faire des remplacements pendant des années dans une grosse station de radio. Puis il y avait beaucoup de pression, ce qui fait en sorte que quand on finissait nos émissions, on était fatigués déjà. Puis là, après ça, le soir, après souper, les enfants voulaient aller dehors pour s'amuser. Ben puis là, non. Toi, tu disais, ouais, on va aller, je vais aller me coucher. Là. Fait que là, j'étais chez nous dans ma chambre, j'entendais mes enfants jouer dehors. C'est cruel, ça, la vie de Morning Man.
Ça fait mal, ouais. Ouais, puis, tu sais, là, j'ai la liberté d'aller prendre une bière en semaine. Pour moi, c'était comme impensable parce que c'est niaiseux, mais des fois, juste une bière, ça te détruit complètement parce que le lendemain, t'es comme, t'as de la misère à t'en remettre puis t'es comme, mais c'est juste une bière, mais t'es tellement en carence de sommeil que tu te sens complètement à terre.
Ben, des fois, il y a un côté positif, ça coûte moins cher.
Ouais, ben c'est ça. C'est juste que après ça, ta ligne est dégueulasse parce que tu finis l'émission, il est 9h30, t'as le goût de manger un steak.
Ouais.
Pendant l'émission, des fois, tu grignotes des affaires, fait que tu prends du poids,
t'es chum qui t'appelle le soir pour sortir, toi, t'es plus capable de vivre.
Ben non.
Mais c'est la vie, puis on parlera peut-être de la radio un peu plus tard. Je veux en savoir un peu plus sur toi. Bon, tu dis que ça fait plus de 20 ans que tu fais de l'humour. Tu as fait l'École nationale de l'humour. Avant ça, est-ce que tu avais... c'est quand est-ce que tu as décidé que toi, ce que tu voulais faire de ta vie, c'est être humoriste? T'avais-tu des idoles d'enfance, là, de gens que tu observais? T'sais? Moi, de mon côté, j'adorais Marc Favreau. Aujourd'hui, quelqu'un qui essaierait de faire du Marc Favreau serait pas capable de le faire en raison de la complexité des textes que Favreau faisait. Tu sais, Sol, c'était quelque chose.
Ça prend une plume là, qui vient avec ça.
Des fois, chez nous, la fin de semaine, il n'y a personne. Fait que j'emmerde personne. Je me mets du Marc Favreau. C'est encore disponible sur YouTube. Puis je me dis, mais comment il faisait pour parler pendant une heure, deux heures, avec une langue qui n'existait pas? Là?
Ah oui, puis avec ses tics de bouche. Oui. Puis tout le maquillage, tout le costume, puis tout le... Ah non, c'était impressionnant.
T'avais-tu des idoles?
Moi, je... Tu sais, c'est drôle qu'on en parle, parce qu'il était là ma première. Michel Barrette a été un des premiers humoristes que j'ai entendu officiellement quand j'étais jeune. Il y avait des cassettes du temps d'une dinde.
Ouais, avec Roland Hi-Ha Tremblay. Là.
Exactement. Il y avait lui et Pérusse, François Pérusse, que j'écoutais. Moi, je me rappelle, le soir, j'avais la misère à dormir. Je me faisais souvent écœurer à l'école à cause de ma grandeur. Je suis pas très grand. Puis c'était la seule affaire qui me permettait de décrocher. J'avais mes gros écouteurs. Dans le temps, il y avait une ganse en métal. Fait que tu pouvais pas se coucher dans un bar, ça faisait mal. Fait qu'il fallait que tu restes tout droit dans le lit parce que c'était trop gros. Là.
Ouais.
Mais je me rappelle que je m'endormais avec ça, ces cassettes-là. Puis Michel Barrette, je comprenais pas toutes les jokes de Y'a Tremblay, mais les rires, la séquence de rire, tu sais, il parlait, il y avait des rires, il y avait une vague là-dedans, il y avait quelque chose qui m'hypnotisait puis qui me permettait de m'endormir. Puis hier, ben, il est venu à ma première, tu sais, puis j'ai trouvé
cool,
ça touchant de voir que, tu sais, des gens que j'admirais, que j'admire encore, maintenant, je les côtoie, tu sais, puis je me pince tout le temps de...
Puis te considère comme leur égal.
Ouais. Tu sais, Laurent Paquin fait ma mise en scène. Moi, mon premier gala, juste pour rire, ça a été sur le gala de Laurent Paquin. Fait que jamais un jour, j'aurais pu penser de dire « Hey, Laurent Paquin, c'est mon ami.
Ouais.
Je peux l'appeler si j'ai un problème, tu sais. » Puis là, c'est ça aujourd'hui. C'est fascinant, puis j'ai encore de la misère à embarquer là-dedans. Ouais.
Le déclic pour toi, ça a été quoi quand tu as décidé d'aller t'inscrire à l'École nationale de l'humour? T'sais, moi, quand j'étais jeune, je sais pas à quel âge que tu as pris cette décision-là, mais moi, je voulais être astronaute. Je voulais être pilote d'avion. Je voulais être un grand homme d'affaires. Finalement, j'ai raté ma vie. Là. J'étais à la radio. mais très jeune, je savais des choses que je voulais faire. Puis le parcours que j'ai eu par la suite a fait en sorte que j'ai fini à la radio et ça faisait partie d'un de mes des rêves de ma vie. Moi, j'écoutais la radio AM dans le temps. Puis je trouvais ça incroyable de pouvoir parler de sport, de quelque chose qui te passionne pendant des heures et des heures. Puis il y a des gens qui t'appelaient. T'sais. Fait que très jeune, je savais que ça faisait partie de mes choix de vie. Toi, c'est quand est-ce que tu as décidé de devenir humoriste?
Moi, je voulais faire du théâtre puis être comédien très tôt.
Okay.
Humoriste, c'était comme pas un métier que, oui, plus tard, j'en voyais. Puis j'aimais beaucoup ça, mettons, à l'adolescence.
Ouais.
Mais un jour, je faisais du théâtre puis j'avais tout le temps les rôles comiques. Dû par ma grandeur, on me donnait le petit comique. Même si c'était des pièces plutôt tragiques, il y avait tout un rôle un peu plus le fun.
Pour pas te faire fesser, toi, tu t'étais drôle.
Moi, dès le début, ouais, ça a été ça. Mais pour vrai, ça a été ça dès le début.
C'était une façon de survivre à l'école.
Ben oui, chacun a sa technique. Moi, ça a été celle-là que j'ai empruntée. Je pense que chaque humoriste a un peu ça, sa façon là, de survivre, découvrir l'humour puis de réussir à s'en servir comme arme. Puis, mais j'étais encore dans le but d'être comédien. Puis, à un moment donné, il est arrivé un technicien à loisir qui s'appelle Steve Simard, qui montait une parade de mode. Là. C'était niaiseux, mais il avait besoin de textes humoristiques. Puis il avait recruté des jeunes pour faire ça. Puis il a demandé à tout le monde, écrivez-moi des petits sketchs. T'sais. Mais lui, il allait les écrire officiellement.
Ouais.
Mais personne n'est arrivé avec rien. Mais j'étais arrivé avec 8 pages. Puis il a fait comme, oh, OK, il y a quelque chose là, là. Puis après ça, il m'a encouragé. J'ai fait cégep en spectacle. J'ai animé cégep en spectacle. Puis là, il est venu me voir. Puis il fait, là, il est temps que tu arrêtes d'animer. Tu vas t'écrire un numéro d'humour. Fait qu'il m'a forcé à écrire un numéro d'humour pour cégep en spectacle l'année d'après. J'ai gagné prix du public, puis 3e prix. Puis il a dit, veux-tu faire l'École nationale de l'humour? Puis là, il m'a expliqué c'était quoi. Puis sans que je le dise à ma mère, parce que je m'étais inscrit, en cinéma à l'université, j'ai été passer l'audition à Montréal. Il m'a amené à Montréal pour passer l'audition parce que je me disais, tu sais, ça ne marchera pas. Fait que je vais aller le faire pour l'essayer. Mais tu sais, je ne stresserai pas ma mère avec ça pour rien. Puis finalement, ben ça a marché. Puis,
c'est incroyable quand même, une rencontre d'un seul individu qui découvre quelque chose en toi que lui ne soupçonnait pas, qui dit, attends un peu, moi je décèle quelque chose, il y a un talent, puis il continue à te pousser pour que tu t'en ailles là-dedans. Je trouve ça formidable. Tu sais. Ce gars-là était au départ un modèle pour toi.
Oui, oui, oui. Puis c'est encore un de mes amis, un de mes bons chums. Puis tu sais, à chaque fois, je fais, man, si tu n'étais pas dans ma vie, si tu n'étais pas dans ma trajectoire de vie, tu sais, je ne serais probablement pas là. Ou en tout cas, ça aurait pris beaucoup plus de temps avant que je réalise tout ça. T'sais.
Et ben, il te charge-tu un 10%?
Non. Mais je fais des beaux cadeaux une fois de temps en temps.
Ben, je comprends. Oh, ouais. Je comprends. Si tu n'avais pas été humoriste, tu aurais fait quoi?
C'est la question, hein. J'ai de la misère à penser à ça. Tu sais, si je me fais à ce que je m'étais inscrit à l'université, il y avait cinéma, je m'étais inscrit en théologie aussi, j'aimais en apprendre sur les religions.
Ouais.
Je sais pas si j'aurais... Si j'avais, peut-être j'aurais pas continué là-dedans. Ouais, c'est sûr, exactement. De nos jours, il y a plein d'avenues. Mais je sais pas qu'est-ce que je ferais. J'en ai aucune idée. Je serais avec les gens probablement. Je pense que je serais un bon vendeur.
Okay. T'avais pas de plan B?
Non.
Je trouve ça formidable, moi, ces gens-là. Moi, j'ai jamais été capable d'agir comme ça. Mais... J'avais tout le temps, OK, je vais essayer ça, ça, c'est mon plan A, mais si ça marche pas, peut-être en raison que j'ai tout le temps été un peu insécure par rapport à la vie, là. J'avais un plan A, j'avais un plan B, j'avais un plan C, un plan D. Ben, à chaque fois, je parle avec des gens comme toi qui me disent, non, moi, c'était ça que je voulais faire, puis je pensais pas à ce qui pouvait arriver. Je trouve ça impressionnant.
Mais je pense que c'était parce que j'étais jeune. Je suis rentré à l'École nationale de l'humour à 18 ans.
Tu restais chez ta mère.
Fait que, ouais, ben oui. Avant ça, je restais chez ma mère. Après ça, à Montréal, ma sœur avait un appart, fait que j'ai resté avec elle.
Bon.
Mais pour moi, c'était... Aujourd'hui, le Billy d'aujourd'hui serait beaucoup insécure comme toi.
Okay.
Ça va me prendre un plan B. Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Qu'est-ce que je vais faire si ça arrive? Qu'est-ce que j'ai développé ça après cette anxiété-là de ça va me prendre un faut que je contrôle ce qui se passe puis tout ça. Mais à cet âge-là, j'avais pas ça. J'étais plus comme on le fait.
T'es un insouciant puis t'es un peu parasite.
Ouais, mais j'étais un travaillant. Fait que tu sais, je savais que si je travaillais, il allait avoir quelque chose en bout de ligne. Tu sais, je savais pas c'était quoi les conséquences de ça, mais aussi je viens d'un milieu pauvre. On n'était pas riche chez nous. Fait que j'avais pas besoin de beaucoup pour vivre moi dans la vie.
Ouais.
J'étais pas stressé par l'argent parce que j'en ai jamais vraiment eu.
Ça c'était peut pas faire ça. Une différence.
C'était pas ma crainte là, tu sais.
OK, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous étiez combien dans votre cohorte à l'École nationale de l'humour?
Ah, on était...
Des gars et des filles qui ont fait l'école avec Billy Tellier, là.
Écoute, on est combien? Était-tu 15?
Une quinzaine, entre 15
ouais,
et 20, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais.
Puis de tous ceux qui étaient dans ta cohorte, est-ce que c'est des gens qui ont réussi à faire carrière en
Il y en a beaucoup. Ouais. T'as une bonne cuvée. Moi, j'ai Alexandre Barrette, Philippe Laprise... J'ai Philippe Bande qui est moins là. Puis il y a Isabelle Ménard qui n'a pas continué en humour, mais qui a été beaucoup à l'animation, à la radio, à la télé. D'habitude, c'est un par cuvée, des fois aucun. Mais nous autres, on était une bonne gang.
C'était une bonne cohorte. Ouais. Ça, c'était impressionnant aussi de voir qu'il y en a... Nous, moi, j'ai fait le Collège Radio-Télévision de Québec. On est à peu près une vingtaine à l'époque. C'était en 2005. Puis de cette vingtaine-là qui rêvait de faire de la radio, il y en a seulement trois. Joanie Duquette, qui était à Sequoia,
oui,
à Montréal,
ben oui,
qui était dans ma cohorte, une fille avec qui je m'entendais super bien, une femme extrêmement brillante, une grande travailleuse.
C'était ma première hier, d'ailleurs.
Oui, ben, je savais qu'elle était du genre à être amie avec tout le monde. Là. Joanie, ça a toujours été ça. Elle est tout le temps gentille avec tout le monde. Puis de savoir que tu la connais, ça, je trouve ça cool. On est trois sur les 20, puis on rêvait tous de faire de la radio, hein? De faire une carrière. Puis je vais être très honnête avec toi, c'était pas moi qui étais le meilleur. Par contre, c'était moi qui étais le plus travaillant. Ouais. Je pouvais être au collège même des jours où il n'y avait pas de cours. J'étais là, je me pratiquais, je me plantais, je me détestais. J'avais la mauvaise voix qui disait « tu réussiras jamais, tu réussiras jamais ». Puis après quelques années, tu sais, je trouve ça cool de voir que même si je n'étais pas le meilleur, j'ai réussi à gagner ma vie un jour avec ça.
Mais il y en a beaucoup que c'était comme ça. Tu faisais « hey, lui, il arrache tout, ça, ouais, va être incroyable ». Puis tranquillement, il s'assoit sur ça. Puis ben, en humour, c'était surtout « il n'écrit pas de nouveau matériel parce que ce qu'il faisait, ça fonctionnait ». Fait,
ouais,
ils vont continuer à pousser ça. Puis ces gens-là, ben, disparaissent. Alors que toi, quand tu faut que tu travailles, ben, tu écris des nouvelles choses. T'sais, puis moi, très vite, avec Alexandre Barrette, quand je suis sorti de l'école, on a été coloc ensemble.
Ouais.
Donc, on s'est challengé beaucoup à l'écriture de « ah, là, il est dans sa chambre en train d'écrire. OK, ben là, je vais aller dans ma chambre en train d'écrire. » Là, il sortait. Fait que « ah, il est encore dans sa chambre en train d'écrire. Ben moi, je vais aller écrire. » Fait que les deux, on s'est poussé beaucoup. Puis je pense que ça l'a aidé vraiment beaucoup nos carrières.
Oui, ça l'a aidé. Est-ce que tu es un des travaillants, toute ta cohorte?
Oui.
Ouais.
Ben, je te dis, ouais, là, moi, c'est comme ça qu'on me décrivait.
Y a-tu des gens dans le milieu de l'humour qui l'ont eu plus facile versus toi, ta carrière? Parce que, tu sais, on a tous vu ça là, dans tous les domaines, là, des gens qui viennent d'arriver, qui obtiennent rapidement du succès dans leur domaine, versus toi. Ça fait 10 ans que t'es là, que tu bûches, que tu cognes à la porte ouvre jamais. Puis finalement, la porte ouvre après 15 ans, puis là, t'es heureux, tu dis, enfin, j'ai réussi. Puis t'as l'autre qui a 2 ans d'expérience, qui est rendu à la même place que toi. Ça peut être fâchant, ça.
Ben, c'est pas une question, mais justice ou de travail, des fois, c'est une question de ce que tu offres comme produit au, ouais, moment où tu l'offres. Tu sais, moi, j'ai vécu des Christopher Williams faire des hits incroyables. Là, que tu fais, c'était le Saint-Denis était en feu à l'époque. Des Rachid Badouri qui, tu sais, 2 semaines avant, il était dans notre salon à moi et Alex. Tu fais comme là, je présenterais peut-être ce numéro-là. Puis après ça, il est au Saint-Denis. Puis ça devient une méga star l'année d'après. Puis ça a explosé. Puis,
ouais,
il apportait quelque chose, une saveur que les gens avaient besoin. Tu sais, fait que pour moi, c'est pas une question d'injustice, c'est juste une question de timing, puis on vit dans un métier où il y a beaucoup de hasard puis de moments. Oui, le travail te permet de passer à travers ça, mais des fois, il y a des gens qui pigent le numéro gagnant, puis tant mieux pour eux autres. J'ai pas... Moi, j'ai le feeling que quand je peux rien faire contre quelqu'un d'autre, un autre humoriste, à moins de débrancher son micro, mais je veux dire, ça sert à rien. J'aime mieux être content des succès des autres parce que quand tu vas voir un show d'humour que t'aimes, tu sors de là et tu te dis « Hey, c'était le fun notre soirée.
Ouais. »
Sais-tu quoi? On devrait refaire ça. On devrait se booker un autre show d'humour. Fait que des bons shows amènent d'autres bons shows. Fait que je pense que c'est juste positif.
Donc, Billy Tellier, c'est un bel humain.
Ben, j'essaie de l'être. J'essaie de l'être. Puis ce qui est drôle, c'est que dans mon show, j'en parle. J'ai toujours voulu être une bonne personne. Puis là, en vieillissant, je réalise que c'était peut-être pas un bon choix.
Non?
Ah non. J'ai le feeling que présentement, c'est vraiment les mauvaises personnes qui mènent le monde. Là.
Ouais, c'est ça. Ben, on peut parler de politique si tu le veux, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que la vie sourit tout le temps aux gens qui sont gentils?
Je pense pas. Je pense pas. Puis c'est correct. Faut pas avoir d'attente. Mais là, j'ai le feeling que il n'y a jamais autant d'arnaqueurs, de gens qui se la coulent douce,
ouais,
de gens qui, tu sais, je l'ai dit dans le show, mais je me suis fait voler mon identité, tu sais. Puis la personne qui l'a volé, elle a eu la belle vie, là. Il n'y a personne qui a été après elle. Moi, il a fallu que j'appelle Equifax, TransUnion, plainte à la police. Je suis tout le temps dans le stress de « OK, mais là, je vais-tu me refaire frauder encore? » Il faut que tu prennes des façons de faire pour pas que ça réarrive. Puis tu as l'impression que c'est encore de ta faute. Puis c'est lourd. Mais l'autre personne, elle, il y en a tellement des cas de gens qui fraudent que la police, il court pas après tout le monde.
Ouais. Est-ce que la vie est plus facile avec les gens qui sont immoraux?
Je pense que oui. Je pense que pour eux autres, il n'y a pas, ben, y a pas de conséquences. Ils se foutent des autres, puis
ouais,
ils pensent à leur bien-être, tu sais, puis c'est peut-être ça la bonne voie.
Ouais. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'en ai parlé avec ma collègue de travail en ondes la semaine passée. Tu sais, il y a des gens qui vont... exemple sur l'autoroute, là, c'est le gros trafic. Il y a des gens qui vont rester en file. Je ne sais pas si tu connais un peu Québec, la grande région, mais moi, je suis un gars qui... Mes enfants sont en Beauce.
Okay.
Fait que quand j'étais avec mes enfants en Beauce, après ça, il faut que je vienne travailler à Québec. Là, j'arrive 7 heures de trafic pour attendre le pont La Porte. Fait que je fais la file derrière les autres. On est à peu près 7 à 800 à Queuleuleu, puis là, j'en vois qui passent à ma droite.
C'est tout le temps.
Qui font semblant d'aller à Montréal, puis à la dernière minute, ah non, je change d'idée, je m'en vais sur le pont Pierre-Laporte. Fait qu'eux autres, ils viennent de dépasser 800 personnes, puis je me suis dit, dans le fond, c'est-tu moi le cave, tu sais, qui attend, là, je suis 800e dans la file de 900 personnes, puis lui... Fait juste un « Ah, je m'en vais à moi. Ah, finalement, je change d'idée, puis les gens le laissent passer. » Puis la vie est plus facile pour lui.
Ben oui, puis c'est toi, en tant que bonne personne, qui fait « Ah ben là, si je le laisse pas passer, il va scraper mon char, puis là, ça va être compliqué, puis là, je vais faire attendre encore plus les autres. » Fait que c'est toi qui a toute cette anxiété-là, alors que ouais. Lui, il fait juste mettre son flasher. Il se tasse un peu. Il se tasse un peu jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui fasse « Bon, OK, c'est beau, je vais te laisser aller. »
Puis à soir, il va bien dormir.
Ben oui, il n'y en aura pas de problème.
Ah, les salauds. Est-ce que, quand tu regardes le milieu de l'humour au Québec, qui est un super de beau marché en passant, ouais. L'humour au Québec, ça marche vraiment bien. Aux États-Unis, dans certains secteurs aussi, ça fonctionne super bien. Mais au Québec, c'est particulier à quel point l'humour, ça fait vivre énormément de gens. Sais-tu des fois de te dire, OK, mais en quoi je peux me différencier des autres? T'sais? Parce qu'il y en a tellement des humoristes, là, hommes comme femmes, puis moi, je trouve ça très cool, cette belle diversité-là. Mais il y en a tellement que tu te dis, moi, je suis Billy Tellier, je vais essayer de me démarquer des autres. Ça doit être compliqué des fois.
Mais j'ai eu beaucoup ça dans les débuts de ma carrière à penser à ça. Mais là, plus je vieillis, plus je me dis... Je veux pas me démarquer en fonction des autres. Je veux faire ce que moi, je veux faire, puis je veux faire ce qui me plaît. Fait que je pense que la meilleure façon de se démarquer, c'est d'être toi-même, puis de passer par des sujets qui touchent toi, puis que tu vis. Fait que tu peux pas être les autres à ce moment-là, parce que c'est toi qui y vis, tu sais. Dans mon show, je parle du fait que je suis somnambule, tu sais, ce qui est proche de moi. Ouais. Mais tu sais, c'est ma couleur à moi, c'est moi qui le raconte, c'est moi qui... Fait que je trouve que c'est ça mon avenue à moi de me démarquer, c'est de passer. Parce que sinon, tu es tout le temps en train de te demander, ben là, qu'est-ce que je vais faire si lui, il fait ça? Faut-tu que j'aille là aussi? Faut-tu que je fasse ça? Faut-tu que... C'est plus de faire qu'est-ce qu'il me tente de faire, puis je vais lever, puis je vais m'amuser.
Mais ça, après 20 ans, tu as ce recul-là au début, quand tu as commencé, t'avais-tu ce recul-là?
Non. J'essayais de faire ce qui marchait, puis j'essayais d'être là-dedans, puis j'étais plus dans le liner, j'étais des fois un peu dans l'actualité, j'étais beaucoup là-dedans, puis j'étais pas proche de... Ça marchait, j'avais des bons gags, je pense que j'écris des bons gags, mais j'avais pas cette connexion-là avec les gens. Alors que quand tu commences à parler de toi, à te découvrir, puis à te faire découvrir aux gens, les gens s'attachent, mm-hmm. Ils se reconnaissent aussi. Des fois, tu sais, mentir, c'était de faire, ben là, si je parle de moi, ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Billy Tellier dans la vie, tu sais. Mais en même temps, ce dont je te parle, tu le vis toi aussi. Tu as la même vie que moi probablement, ou en tout cas, t'as des parents, t'as un couple.
Dans tes spectacles, t'en rajoutes un peu, là?
J'en rajoute rarement.
Non?
Non, ben écoute, je vais peaufiner pour avoir des bons gags à travers mon anecdote, mais, ouais. Mais c'est malheureusement, ou heureusement pour les spectateurs, tout vrai, tu sais.
Tout ça, c'est arrivé.
Ben ouais, parce que sinon, moi, je suis pas un raconteur dans la vie. Je peux raconter une anecdote, tu sais, okay. 2-3 minutes.
Ouais.
Mais il faut que ça me soit arrivé.
Mais pourtant, de ce que j'ai vu de toi, là, je veux dire, tu le racontes, puis moi, je suis quelqu'un qui... Je suis très visuel. Fait que tu racontes, puis moi, il y a des images qui se créent là, dans ma tête quand tu racontes les histoires. Pour les auditeurs qui n'ont jamais eu la chance de voir en spectacle, il y a quelques capsules sur YouTube qui sont franchement intéressantes. Puis tu vas avoir une première, là, c'est dans le coin du 20 février.
20 février, Albert Rousseau.
Salle Albert Rousseau. Est-ce qu'il reste des billets? Oui.
Je pense qu'il en reste quelques-uns. Quelques-uns. Là, mais ouais.
Donc, ils vont avoir la chance de te découvrir là s'ils ne l'ont pas déjà fait. As-tu le sentiment d'imposteur?
Ah,
parce que tu me laisses penser ça, parce que tu dis, ouais, mais t'as peu, là, moi, là, ma vie, tout le monde la vit, ma vie, là.
J'ai eu ça, ouais. Des fois, j'ai ce petit recul-là.
C'est sain de l'avoir.
Je pense que oui. Ben, je pense que ça vient avec mon côté aussi un peu perfectionniste, ou, tu sais, en tout cas, j'aime ça que les choses soient bien faites, puis j'aime ça, fait que je me pose des questions, je me remets en question souvent, ce qui n'est pas le fun pour mon estomac,
ouais.
mais je pense que c'est sain d'une certaine façon. Faut que je me régule, puis que je fasse, non, là, tu vas trop loin, calme-toi. Mais ouais, des fois, tu stresses, puis t'as ça, mais tu sais, des moments comme ma première hier, des moments comme gagner des trophées au Gala des Oliviers, ou en tout cas être en nomination, c'est des tapes dans le dos qui font comme, OK, là, tu paniquais pour rien. Là, regarde, les gens t'aiment, t'es à ta ouais. place.
Ça, c'est le constat après.
Ouais.
Mais hier, quand t'es semblable, parce qu'il y avait des humoristes dans la salle, quand ils se sont levés pour te féliciter du spectacle, est-ce que tu étais capable de recevoir tout cet amour-là? Ou encore là, tu disais, il me semble que je ne mérite pas tant.
Ah, ben à ce moment-là...
C'est ça le sentiment d'imposteur. Ouais. Tu te dis, pourquoi ces gens-là sont devant moi? Puis ils m'applaudissent, puis sont vraiment heureux, alors que, tu sais, ben là, t'es peu, je suis juste Billy Tellier, là.
Ouais. Ça m'arrive, mais hier, non, hier, j'étais capable
de l'accepter.
Ouais. J'étais, probablement les shows avant, j'avais moins ça.
C'est en vieillissant qu'on fait ce constat-là. Quand un gars comme Michel Barrette dit « Hey, j'ai vraiment aimé ton spectacle, es-tu capable de le croire à 100%? »
Ouais.
Oui?
Ouais, parce qu'il est pas... tu sais, Michel, il te le dira pas s'il le pense pas.
Non, là. Je l'ai croisé une fois, puis effectivement, c'est quelqu'un qui est assez drette, là.
Ah, il est honnête, puis ça fait du bien, là.
Ouais. N'as-tu déjà un qui t'a dit « Hey, c'est un numéro-là, ça me fatigue un peu, puis je le ferai pas de même? » Ça te joue-tu dans la tête, ça?
Ah, généralement, on va se le dire en rodage. Ouais. C'est des affaires qu'on va se dire... puis je pense que les gens qui sont autour de moi ou les humoristes que moi je vais voir, quand je me permets de dire ça à quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il est encore en période de travail.
Okay.
Puis là, je fais ben voici ce que moi je pense que tu devrais faire. Tu sais, mais ça, c'est mon opinion à moi. Mais je pense qu'on le fait tout le temps en fonction d'améliorer l'autre ou d'amener ça plus loin ou juste de le faire se questionner pour peut-être « Hey, t'as peut-être une piste de gag là-bas que t'as pas pensé. »
Puis tu choisis-tu qui t'écoute, qui t'écoute pas? Tu sais, un exemple, quand j'étais jeune, en 2000, j'ai fait 2006 tantôt, ouais, 2005-2006, en 2007-2008, j'étais faire la route 66 aux États-Unis. Puis là, il y a des gens qui me conseillaient sur la fameuse route 66, puis il y a des gens qui étaient terrorisés en disant « Yann, tu t'en vas aux États-Unis, c'est dangereux, tu vas être seul. » Puis il y en a d'autres qui étaient comme « Wow, vas-y, fais ci, fais ça. » J'imagine que quand il y a des gens qui te donnent des conseils, t'as des personnes que tu sélectionnes qui disent « OK, moi, cette personne-là, j'ai confiance en elle. »
Ouais. Ouais, tu finis par t'entourer aussi, tu sais. C'est pas pour rien que j'ai demandé à Laurent Paquin, qui me connaît super bien. Puis même là, quand Laurent me donne des conseils ou me propose des idées, ça veut pas dire que je vais les prendre nécessairement, tu sais. Je vais souvent les essayer.
Ouais.
Mais après ça, moi, je vois comment ça résonne sur scène, comment moi, je le feel, puis après ça, je vais l'adapter à moi. Je pense que ça fait partie d'être travailleur autonome puis de prendre des décisions parce qu'en bout de ligne, la personne qui va subir les conséquences de ça, c'est moi.
C'est toi, ouais.
Fait que j'apprends à gérer mes affaires à moi. Puis ça, très tôt, j'ai été bon là-dedans dans ma carrière de faire comment okay, non, ça...
T'es capable de faire un bon tri des conseils qui te sont donnés.
Ouais, okay. Ouais.
Quand tu fais ton rodage, tu vas-tu faire des petits shows de 3-4 minutes dans certains bars à Montréal? Comment ça fonctionne?
Pour ce show-là, j'ai commencé un peu avant la fin de ma deuxième tournée.
Ouais.
Je venais de quitter la radio, puis il y avait des soirées d'humour à Terrebonne, au Foutoir. Puis Stéphane Poirier anime là, un humoriste, et j'ai demandé d'aller faire des chroniques de 8-10 minutes. Fait qu'il me présente comme étant du nouveau matériel à chaque deux semaines. Puis les gens qui sont là, ben c'est un peu comme le Bordel Comedy Club où vous avez les mêmes trucs à Québec, mais c'est des endroits où les gens, ben ils sont prêts à recevoir du nouveau matériel puis ils sont corrects avec ça. Fait que ça m'a permis de tranquillement essayer des idées, des 8 minutes. Après ça, tu fais le ménage. Puis quand tu commences officiellement ton rodage, moi, c'est de même que je procède. T'as au moins un 20-30 minutes que tu peux t'asseoir dessus.
Ouais.
Puis t'es pas nerveux en commençant. Puis fait qu'après ça, ben là, tu rajoutes. Puis tu finis par avoir ton heure assez vite. Là.
Et tu parlais de Stéphane Poirier. C'est drôle, j'ai entendu un podcast avec Alexandre Barrette.
Oui.
Puis Poirier qui était au podcast. Puis je pense qu'il parlait d'une relation toxique qu'il avait eue avec son ancienne blonde. Mais ce que je ne savais pas de Stéphane Poirier, c'est que quand il est sorti de l'école, très vite, on parlait des gens que ça marchait, là, puis qu'on pensait que ça allait devenir des superstars. Puis d'ailleurs, il l'aborde avec Alexandre Barrette. Lui, on était persuadé que c'était le prochain Louis-José Hood.
Oui, mais je pense que ça a trop collé. Il était trop proche de Louis-José.
Ouais, c'est ce qu'il a dit.
Pour le style.
Exact.
Alors que Stéphane, il a une super plume. Ouais. C'est un auteur incroyable. C'est encore un humoriste. Et il a des super soirées. Il fait le travail. Moi, dès que j'ai un show où j'ai à choisir des amis, il est dessus parce que je sais qu'il va faire le travail.
Ouais.
Fait que c'est juste une condition. On parlait de hasard tantôt, mais c'est ça. Il était un peu trop collé sur la vague de Louis-José.
Parce que c'était son idole.
Ouais.
Il l'a dit dans le podcast aussi. Il dit, moi, c'était mon idole. Fait que quand même qu'on me dit, ouais, tu ressembles trop à ton idole. Moi, oui, parce que je l'écoutais tout le temps. Fait que c'est normal qu'il y avait certains signaux qui étaient similaires. OK, je trouve ça intéressant. Puis le rodage. OK. Est-ce que la radio t'a aidé dans ton métier d'humoriste, ne serait-ce que pour la spontanéité qu'on peut avoir? Quand on fait une niaiserie à radio, ces restes-là est fait, on ne peut plus en revenir en arrière, on ne peut pas effacer tape. Les boss nous disent, regarde, mange la claque, là, parce que c'est sûr que tu es obligé de la manger. Ça t'a-tu aidé, ça, dans ton métier?
Oui. Ben, en fait, ce que ça m'a amené... ça a été justement la partie où je parle de moi, la partie où je me découvre, parce que la radio, surtout le matin, tu es avec les gens. Fait que oui, tu peux être drôle puis faire des gags, mais si tu y vas pas avec, tu as vécu quoi hier? Qu'est-ce qui est arrivé chez vous?
Ouais.
Comment tu vois ça, cette situation-là? Ce que tout le monde vit ce matin, le prix du gaz, whatever. T'sais, comment tu, si tu donnes pas ce que tu as en dedans, les gens vont le savoir, puis les gens vont pas connecter avec toi, parce que la radio, c'est tellement intime, c'est tellement... T'es dans la voiture des gens, t'es dans leur maison, t'es dans... Fait que ça m'a... Oh, j'ai été obligé de me découvrir, puis je me suis forcé avec ça, parce qu'on parlait du syndrome de l'imposteur de Billy Tellier Saint-Intéresse qui. Ben ça m'a amené à faire des chroniques où je parlais un peu plus de ma vie. Puis après ça, j'ai fait, ben OK, ça marche, je sens que les gens sont attachés. Pourquoi je fais pas ça sur scène aussi? Pourquoi j'amène pas ce côté-là aussi sur scène?
Exact.
Puis là, ben, Laurent Paquin est arrivé pour mon deuxième show, puis il a fait « Non, non, faut que tu fasses ça », puis il a continué à me pousser. Puis mon troisième, c'est la même chose. Je pense qu'on en découvre encore plus.
Restez groundé aussi sur le monde. J'ai animé une tribune libre le soir pendant des années, où j'ouvrais les lignes. Un peu comme M. Fabi faisait dans le temps, là, au 98.5. Moi, je le faisais version un peu plus Québec. Puis,
ce qui veut dire?
Monsieur Fabi, c'était très propre, là.
Oui, ouais, oui, oui, ça filtrait.
Moi, j'avais des gens qui m'appelaient, qui étaient en pleine phase où ils étaient avec leur conjointe, mettons. Il y avait des affaires qui se passaient qui étaient juste hallucinantes sur cette ligne ouverte-là. Mais il y avait des histoires intéressantes, des histoires tristes, des histoires drôles qui arrivaient sur les ondes. Mais ça me restait groundé sur le vrai monde. Puis à un moment donné, Billy, bon, ça a peut-être sorti un peu du cadre de mon travail, mais il y a une dame qui m'appelle, qui me dit « Yann, je suis en douleur, j'ai besoin de te parler, j'aimerais ça te parler au téléphone personnellement. » Je dis « OK, pas de problème. » Puis à minuit 3, elle me rappelle, puis là, je réponds, j'entends sa voix, « OK, c'est elle. » Puis là, je lui demande « Est où? » Puis là, elle me dit « Je t'inquiète, je suis dans le sous-sol du Saint-Hubert, dans le secteur de Laurier. » Puis je dis « Qu'est-ce que vous faites dans le sous-sol du Saint-Hubert? Ils vont-tu vous transformer en poulet? » Elle dit « Non, elle dit je suis avec ma voiture. » Fait que c'est un parking souterrain. Là, je dis « Qu'est-ce qui vous empêche de partir de là? » Elle dit « Je suis terrorisé. Il y a des gens qui me surveillent quand je suis chez nous. Ils regardent dans mes fenêtres. » OK. Est-ce que vous avez appelé la police? Non, mais la police semble être dans le coup.
Oh, OK.
Je commençais à me rendre compte, puis c'était pendant la pandémie, Billy, là. Je commençais à me rendre compte que la dame, elle fermait pas trop étanche. Il y avait une portion de sa vie qui était pas nice, qu'elle était en train de vivre. Fait que je dis, regardez, moi, c'est sur mon chemin, je m'en vais en Beauce, fait que je vais passer par le boulevard Laurier, je vais aller vous voir. Parce que je me demandais ce qui se passait, je me disais, es-tu en danger? Fait que je me pointe là, j'arrive, puis là, je vois la dame, je sors de ma voiture, elle est dans sa voiture, puis... Le côté passager s'est rempli de déchets. Le derrière de son véhicule s'est rempli de déchets. Le, je sais pas comment t'appelles ça, mais le dash. Ah, c'est un beau mot en français, ça. Tableau de bord, tu sais, c'est rempli de déchets. Puis elle me dit, j'ai froid. Je dis, est-ce que vous avez des couvertes dans votre voiture? Elle dit, non, j'ai pas ça. Je dis, est-ce qu'il vous reste de l'essence? Parce qu'elle était dans une station intérieure, mais à air ouverte, ce qui faisait en sorte que l'air pouvait circuler puis avoir un véhicule qui était en marche sans aucun problème. Elle me dit, j'ai plus d'argent, là, ma carte fonctionne plus. Fait que j'ai été avec elle à station-service. On a rajouté un genre de 40 pièces de gaz. C'est moi qui ai payé. On est retourné à cet endroit-là, puis j'ai jasé avec elle. De tout, elle était hyper terrorisée. Pendant la pandémie, je savais qu'il y avait des gens terrorisés, Billy, mais de jaser avec ces gens-là puis de me rendre compte qu'il y en a qu'au niveau psychologique, ça allait vraiment pas bien. Je m'attendais pas à ce moment-là.
Ben, elle s'est isolée, probablement.
Elle s'est isolée. Il y a des affaires qui étaient dans sa tête qui n'existaient pas.
Ben oui.
Puis c'est une femme, puis je veux pas l'identifier, bien entendu, mais c'est une femme qui travaillait à anciennement Robert Giffard, Saint-Michel-Archange, qui est l'Institut en santé mentale de Québec. Fait que c'était une infirmière qui avait des problèmes psychologiques en raison de la pandémie. Il y avait des choses qui se passaient. Puis elle aidait des gens qui avaient des problèmes psychologiques. Puis ça, ce moment-là, Billy, là, ça m'a regroundé un peu sur ce qu'on était tous en train de vivre pendant la pandémie. Je travaillais pour les médias, fait que j'avais pas de couvre-feu. Je pouvais aller où je voulais. Là. J'avais juste à dire, je travaille pour telle station de radio. Voici la lettre de mon employeur, puis il m'aurait laissé partir. Mais je ne vivais pas ce que les autres vivaient. Tu sais, ils étaient pognés à l'intérieur de leur maison. Puis de côtoyer cette dame-là par la radio, bien, ça m'a permis de me «grounder» encore plus sur les gens. Puis comme tu le dis, ce médium-là permet d'être «groundé» sur le monde. Fait que si tu peux transmettre ça dans ton métier d'humoriste, ça va être un plus dans ce spectacle-là, certainement.
À un moment donné, j'ai eu un message Facebook. C'est un long message Facebook, tu sais. Puis quand c'est des longs messages Facebook, tu fais comme, oh, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est une dame. Puis elle fait juste m'écrire que un matin, elle s'en allait en char. Puis elle s'est dit, moi, je fonce dans un troc.
C'est fini.
Je pogne un poteau, peu importe, mais là, je suis tanné. Puis elle dit, la radio jouait. Puis il y a une de tes chroniques qui est partie. Puis ça m'a comme dévié de où j'étais dans ma tête. Je me suis comme embarqué dans ta chronique, puis je l'ai écouté, tu sais. Puis juste ça, ça m'a déphasé. Je suis arrivé à job, j'ai demandé de l'aide. Puis elle a dit, ça fait un an de ça. Puis elle a dit, aujourd'hui, je suis correct. J'étais avec mes filles. Puis je l'ai juste remercié pour ça. Puis j'ai fait comme, wow. C'est niaiseux parce que, tu sais, peut-être que ce matin-là, j'étais comme, ah, oh, ma chronique, là, c'est quoi, un matin, c'est peut-être pas la meilleure. Puis, tu sais, ça me tentait peut-être pas de rentrer à radio. Puis là, tu te dis, ben, c'est quand même fou pareil que. Moi, je fais des jokes niaiseuses, puis ces jokes-là ont permis à cette dame-là de continuer dans la vie. Puis je me mets pas la pression de me dire « je l'ai sauvée ». Je pense que c'est un hasard. Il y aurait peut-être qu'elle était en attente de quelque chose de peu importe autour. Ça a donné que c'était moi qui étais là. Mais ça permet de faire... Des fois, tu dis « ah ouais, mais je fais juste des jokes dans la vie ». Mais ça permet quand même aux gens, des fois, de décompresser puis d'avoir du fun, tu sais.
T'es-tu à l'aise avec ça, le fait que cette dame-là t'écrit pour te parler du problème qu'elle avait cette journée-là puis que le bien-être que ça lui a donné de t'entendre puis de dire, finalement, ça vaut peut-être la peine de rester encore là pour un certain temps. T'es-tu à l'aise de recevoir ça puis de dire, écrif, t'as fait une différence?
Ça a été tough. Je l'ai remercié. Je l'ai invité à mon spectacle. Elle est venue me voir après. On a jasé. Mais tu sais, je prends pas tout ça pour moi, dans le sens, c'est pas moi, je suis pas un sauveur de l'humour, là, tu sais, j'ai pas... c'est pas mes blagues, je me promène pas en faisant des jokes, puis les gens reprennent goût à la vie, là. Puis je veux pas me mettre l'impression inverse de me dire, oh non, ça a pas ri à soir, qu'est-ce qui va arriver? Je vous aime, gang, partez pas chez vous. Mais à ce moment-là, j'ai fait, hey, je vais le prendre, c'est-tu quoi, je vais le prendre? Parce que je sais qu'il y a des matins où ça me tentait pas de me lever, puis d'écrire des jokes, puis... la radio encore plus, la scène aussi, mais la radio, t'as cet impact-là à chaque matin dans la vie des gens. Puis c'est impressionnant. Tu le réalises pas tout le temps parce que tu les as pas devant toi, mais c'est après que tu reçois des histoires, puis c'est impressionnant.
Puis les gens, quand ils viennent te voir, ils ont l'impression de te connaître.
Ouais.
Puis ils parlent des anecdotes de vie que toi, te disais à la radio, mais que tu te rappelles plus. Puis là, tu te dis, attends, je la connais-tu personnellement, cette personne-là, ou c'est une auditrice ou un auditeur? C'est vraiment un super de beau médium, la radio. Puis je suis content que tu nous en parles. Les gens, est-ce qu'ils ont tendance à approcher Billy Tellier en majorité pour les bonnes raisons? Tu sais, le fait que tu es un humoriste, quand tu as commencé, ça a bien fonctionné pour toi. Tu sortais dans les bars, les restaurants. Étais-tu capable de faire le tri entre les bonnes personnes qui t'approchaient versus les gens qui t'approchaient pour obtenir quelque chose de toi?
Ah, j'ai rarement eu des gens qui voulaient obtenir
ta blonde, est-tu plus belle que toi?
Ouais. Mais ça a toujours été. Même quand j'étais au secondaire.
Ouais, OK.
je connais ma place.
Ouais. Tu t'es pas méfié quand tu l'avais arrivé et à dire salut Billy. T'aurais dû te méfier, Billy.
J'aurais dû. Pourquoi?
Mais là, t'en as profité. Tu t'es dit, elle est belle, c'est beau, j'y vais.
À un moment donné, hein, la vie te donne des cadeaux.
OK. Tu sais, si ça avait été un gros méchant moustachu, lui, je l'aurais perçu, là, mais elle m'a eu.
Elle m'a eu. Elle a bien joué. Elle m'a fait deux enfants. Bien joué.
Ouais. C'est comment la vie pour les enfants d'un humoriste? C'est-tu facile pour eux? S'en font-tu parler à l'école?
Là, je te dirais, pour mon garçon de 8 ans, ça commence à être plus tangible. Il y a des amis qui me voient plus à la télé. Leurs parents vont écouter ces émissions-là, puis ils vont le laisser probablement écouter des fois des bouts de mon spectacle. Fait que le lendemain, il se fait parler de mon show à jouer il n'y a pas longtemps à la TVA. Fait que le lendemain, à l'école, il y a un ami qui comptait de mes blagues, t'sais, puis là, il trouvait ça bien drôle. Hein? Il y a un ami qui est... Mais ça leur dérange pas parce qu'ils ont l'habitude que je me fasse saluer par des gens. « Papa, est-ce que tu le connais, ce monsieur-là? » Non, papa, il ne le connaît pas. « Ah, OK. » Ils comprennent que c'était soit la radio, soit la scène, soit la télé.
Ils ne sont pas gênés de ça?
Non. Okay. Non, je pense que ça va bien de ce côté-là. Est-ce que plus tard, ça va me coûter cher en psychologue parce que je parle d'eux autres dans mes shows? Ça, c'est une autre histoire, mais ça,
ouais,
l'avenir va nous le dire.
Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que il y a peut-être un mois, j'avais Marc Dupré ici en studio. Puis on a fait un podcast exactement comme on fait avec toi. Puis, tu sais, Marc Dupré, il a une carrière d'humoriste, carrière de chanteur. Il a travaillé longtemps là, à TVA. On le voyait partout. Mais Chris, il est arrivé quelque chose dans sa vie où il a rencontré une fille qui a fait en sorte que sa belle-mère, c'était Céline Dion. Là.
Ouais.
Puis là, tu sais, moi, ma belle-mère, Marc, là, je l'aime bien. Là, mais quand elle me pose des commentaires, je dis « Hey, la belle-mère, tu sais, mais là, toi, t'as Céline Dion à l'autre bout de la table qui te donne des conseils sur, exemple, comment élever tes enfants. » Ça demeure ta belle-mère, mais c'est comme l'artiste planétaire la plus connue. T'étais-tu capable de faire la différence, tu sais? Puis, bon, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il me dit. Vous aurez écouté le
ben
podcast.
Ben là!
Ouais, j'étais un vendeur, moi! Fait que c'est, l'entrevue est toujours disponible, mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de l'entrevue, du tout, mon petit Christ m'a fait dire des affaires que j'avais jamais dit de ma vie. C'est une belle qualité qui m'a donné. Mais c'est ça, tu sais, lui, il était à côté de Céline Dion, mais il s'en rendait comme pas tout le temps compte. À un moment donné, c'est tellement normal pour lui que sa belle-mère, c'est Céline Dion. Là. C'était sa belle-mère. Il pouvait se plaindre dans sa tête que c'était elle, sa belle-mère.
Mais ça devient quand même un peu féerique. Il y a quelque chose de magique là-dedans.
ça a juste comme pas de bon sens comme situation, mais lui, ça y est arrivé. Hey, j'ai plein de sujets à te jaser, Billy Tellier. On va faire juste une courte pause, mon ami, si tu le désires. On va te garder encore pour une quinzaine de minutes. Donc, je vous rappelle que ce soir, j'ai le plaisir d'être avec l'humoriste Billy Tellier, qui va être pour sa première. Ben, en fait, qui avait lieu hier, mais la première à Québec, ça va être dans le coin du 20 février. Donc, quelques jours plus tard que la Saint-Valentin, pour les gens qui
J'aime ça.
Ont des blondes, mm-hmm, qui sont demandantes et qui veulent un vrai homme, ben, il sera disponible à la salle Albert Rousseau le 20 février.
Ou qui n'aime pas la compétition. Un des deux.
Ouais, demain. Donc, on peut acheter tes billets si c'est disponible sur le site de la salle Albert Rousseau.
Ouais, ou billitalier.com. Là,
voilà. Facile, donc, on fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Rage Against le Matin.
On jase ce matin avec Frédéric Boisvert, qui est PDG Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Est-ce que cette claque d'en face, là, cette fois-ci, est assez forte pour nous réveiller puis qu'on change?
Si tu compares au niveau historique des électrochocs du genre, là, j'en vois pas de nature équivalente là, en termes de menace à notre souveraineté économique comme pays depuis 1812, quand les Américains ont essayé de nous envahir.
Je vous assois avec Éric Girard, ministre des Finances. Vous leur demandez quoi concrètement pour aider les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie?
Baisser les impôts des sociétés. Je vous dirais là, puis une bonne baisse, là, pas une baisse de 5 %. Là. Donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles, après, puissent investir dans l'automatisation, la robotisation, la digitalisation. Tout ça va nous rendre plus compétitifs. Fait que donner de l'oxygène aux entreprises, on en a besoin. Puis arrêtez surtout, avec vos futurs projets de loi, de pelleter dans le cours des entrepreneurs, des entreprises, des coûts que les entreprises n'ont pas besoin et n'ont pas d'argent pour ça.
Rage Against le Matin. Tous les jours en semaine, 6 h. Sinon,
vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
OK. C'est le temps de préchauffer ton four. Tes chums sont invités, puis tes prédictions sont faites. Parce que la grande finale de football est à nos portes.
Boulevard 102.1 offre un touchdown à ton salon et va te faire vivre la frénésie digne des plus grands stades.
Cette semaine, écoute Boulevard 102.1 pour découvrir quel est le salon de rêve de nos animateurs à inscrire au blvd.fm. Tu pourrais gagner 3 250 $ d'électronique chez Stéréo Plus. Ça, c'est une grosse nouvelle TV, une barre de son et tout ce qu'il te faut pour pimper ta maison en terrain de jeu ultime.
Tu cherches l'amour, mais t'as pas encore trouvé ta douce moitié? Pour la Saint-Valentin, offre-toi l'amour en version sucrée au croque-en-bouche. Croque-en-bouche sur Saint-Joseph. L'amour commence ici.
Le classique Mardi Gras revient au Bistrot Bar L'Atelier le 11 février. Une soirée à ne pas manquer, où vos personnalités médias favorites s'affronteront dans une compétition de mixologie. Performances d'artistes et une ambiance festive inégalée vous attendent. Procurez-vous votre billet via notre site web en effectuant une réservation et en sélectionnant la date du 11 février. C'est un rendez-vous à ne pas manquer au Bistrot Bar L'Atelier sur Grande Allée. Bistrotlatelier.com.
Hivertissement. Une bordée d'aubaines est en cours chez La Tulipe. On écoule nos stocks sur un choix immense de marchandises d'hiver. Tous les départements et les grandes marques sont touchés. Vêtements, bottes, raquettes et accessoires de motoneige, le meilleur de la saison vous attend
chez La Tulipe.
Viens t'amuser à Gogone et Doudoune au quai de l'espace 400. Ours d'escalade géant. Symposium carnavalesque présenté par l'épine cloutier Atos du 7 au 9 février. Dégustation animée avec chef de renommée les 8, 9, 15 et 16 février et bien plus. Navette Vidéotron gratuite entre le parc de la francophonie, le quai Chouinard et l'espace 400. Viens jouer dehors tous les week-ends de janvier, les 1er et 2 février et durant le carnaval du 7 au 16 février. Entrée gratuite, activité payante. Gogone et Doudoune, une production du Carnaval de Québec.
Développez vos compétences, innovez et restez compétitifs avec les formations du service aux entreprises au CFP Samuel de Champlain. Formations variées, de courte durée et à prix abordable. Inscrivez-vous au cfpsc.qc.ca, section service aux entreprises.
Les REA, c'est important et on se doit de s'y pencher. Ils doivent toutefois faire partie d'un plan financier global. Ce dernier vous aidera à sauver de l'impôt et tracera la voie vers la retraite de vos rêves. Avez-vous le vôtre?
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Services financiers, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
L'entrepôt Pentagone ouvre ses portes pour une vente exceptionnelle avant d'expédier en boutique. Tout à moins de 30 $. Jeans et vêtements pour femmes et hommes. Venez profiter de l'offre pour faire des trouvailles. Pour une durée limitée, l'entrepôt Pentagone de Saint-Augustin-de-Desmaures, au 40 des Grands Lacs, local A.
Plus j'y pense, plus j'ai bien fait de cotiser à Montréal chez Desjardins. Si j'ai un remboursement d'impôt, je pourrais changer de laveuse ou voyager. Ah, cotiser à mon CELI.
Ou dormir peut-être. Et minuit, chérie.
Ben oui, j'ai cotisé. Je peux dormir sur mes deux oreilles.
Offrez-vous des économies d'impôt pour 2024. Cotisez à votre REER chez Desjardins au plus tard le 3 mars 2025. Conditions et modalités applicables.
Quand on a un accident d'auto et qu'on n'est pas attaché, on commence par passer à travers le pare-brise. On passe ensuite à travers de longues minutes de réanimation. On passe à travers une batterie de tests et de chirurgie, pendant que des tubes nous passent à travers la gorge. On passe à travers plusieurs jours dans le coma, pour que finalement notre famille passe à travers un deuil. Parce qu'on n'a pas passé à travers. Portez votre ceinture de sécurité. Restez en vie. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Trapèze, trépied, trompette. Ah, pif!
Boréal Bike Shop au Mont-Sainte-Anne, spécialiste en vente et en réparation de vélos de montagne. Pas en diction!
Pour la Saint-Valentin, on vous gâte. Obtenez un cadeau gratuit d'une valeur de 50 $ à l'achat de 50 $, un de 100 à l'achat de 100 $ et un de 150 $ à l'achat de 150 $. Au 7e ciel, 911 Charest-Ouest et Marché Jean Talon, au 7e ciel.com.
Les événements Emploi Éclair, c'est la version professionnelle du speed dating. Un concept unique, simple, rapide et 100% gratuit. Suivez-nous sur Facebook et sur événements avec un S, emploieclair.com, avec la participation financière de la Ville de Québec.
Chérie, as-tu branché la voiture?
Oui.
Ah, puis as-tu appelé les assurances?
Oui.
As-tu pensé à combiner l'assurance auto et celle pour la maison?
Oui, oui.
Puis, est-ce qu'ils t'ont donné un rabais?
25 % de rabais et 50 $ CA.
Économisez en combinant vos assurances auto et habitation CA Québec. Obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur votre prime et recevez 50 $ CA en remise. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto pour une soumission.
C'est février sans alcool aux Trois Brasseurs. Relevez le défi avec nos savoureuses bières blondes, sur à la framboise et IPA sans alcool. Pour chaque canette sans alcool ou Coca-Cola vendue, $1 sera remis à la fondation de Sober Lab. En février, faites un geste pour vous et pour une bonne cause aux Trois Brasseurs.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, l'excellent Billy Tellier, qui va être de passage à la salle Albert Rousseau le 20 février prochain. Salut Billy, ça va?
Oui,
ça va toujours bien?
Toujours bien. Oui. Même si j'ai pas encore eu le temps de voir la vidéo de Marc Dupré, là, je me laisse en suspens.
Ah, ben tu iras sur le site de Boulevard pour écouter les réponses. Ta relation avec l'argent, c'est quoi?
Ma relation avec l'argent?
Parce que tu me disais tout à l'heure, tu vas voir que je te suis, là. Tu me disais tout à l'heure, je suis né dans une famille qui était pas du tout aisée, là. Une famille qui devait travailler extrêmement fort pour mettre de l'épicerie sur la table. les humoristes, ben, c'est peut-être juste une rumeur, mais ça a l'air que vous êtes tous millionnaires. vous faites de l'argent rapidement, vous faites de la bonne argent. Tu sais, à un moment donné, passer d'une famille qui, des fois, se dit « OK, la semaine prochaine, il faudra que je fasse des heures supplémentaires », versus la job que tu fais où, pouf, il y a des grosses rentrées d'argent. Ça a-tu été facile pour toi de t'adapter à ça?
Ça a été dur. Ben pas dur. Là. C'est, je veux dire, quand tu as de l'argent, c'est jamais dur.
Ton premier char, c'était quoi?
Une Wave, une Pontiac Wave.
OK, bon, tu étais relax.
Oh non, je ne suis pas très dépensier. J'essaie d'être correct, mais justement, parce que je viens d'un milieu qui faisait, tu sais, on n'était pas riche chez nous, fait que je te dirais que quand j'ai commencé à faire de l'argent, je la laissais là parce que je me disais, ben, à un moment donné, je vais en avoir de besoin, ça continuera pas, ça continue. Fait que j'ai toujours eu cette mentalité-là dans ma vie,
ouais.
Ce stress-là qui était de, ben, à un moment donné, ça va arrêter, il n'y en aura plus, il va se passer quelque chose. Fait que, à un moment donné, il a fallu que j'apprenne à relaxer avec ça, puis à m'entourer aussi de conseillers financiers, puis qu'ils fassent, OK, mais ton argent, elle ne peut pas juste dormir là. De l'argent, ça peut faire de l'argent.
Faut qu'elle travaille.
Ben, c'est ça. Moi, j'avais pas cette mentalité-là parce qu'on ne parlait pas d'argent chez nous. On n'en avait pas. On n'avait pas ce côté-là. Fait que, puis tu sais, ma mère, quand j'ai commencé à être humoriste, ben, tranquillement, je disais combien j'étais payé. Puis elle m'a fait, OK, je suis vraiment contente pour toi, mais je veux plus savoir ces montants-là, tu sais. Elle dit, je veux que tu sois heureux, profite-en, tout ça. Mais moi, ça vient me chercher parce que ces montants-là, c'était des montants que je pouvais pas imaginer que tu peux faire en 15-20 minutes, tu sais.
Ouais.
Puis
aussi, tu fais chier, là. C'est...
Mais elle comprenait pas le travail qu'il y avait en arrière, mais en même temps, je la comprenais aussi parce ouais. que c'est pas le même métier, c'est une nouvelle vie que j'amenais dans son univers à elle. Là,
exact.
Là, aujourd'hui, tu sais, elle est correcte avec ça, mais dans les débuts, c'était plus touché. Là.
Est-ce que il y a. Parce que j'entendais Marianne Madza dans un podcast qui disait, ben, tu sais, à un moment donné, j'étais dans un restaurant, puis mes amis étaient tout le temps avec moi, puis ils s'attendaient à ce que je paye tout le temps. T'as-tu eu ce genre d'épisode-là avec des chums de gars qui se disent, ben là, à cette heure, t'es rendu connu, tu fais de l'argent comme de l'eau. Quand on est dans un resto, tu pourrais bien faire la tournée?
Non.
Ça t'es-tu déjà arrivé?
Non, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours été. Tu sais, une fois de temps en temps, je garde mes amis. Fait que pour moi, c'est. Tu sais, puis mes amis me le remettent, puis ouais. J'ai jamais eu des amis qui étaient dans... Je pense pas que ça collerait avec moi.
T'as-tu encore les mêmes chums d'enfance?
Ouais.
OK.
Ouais, j'ai encore des amis de secondaire qui sont venus à mon show hier, puis des...
Ça, c'est des bonnes amitiés.
Ouais, ça va passer à travers le temps, tout le temps, puis ces gars-là, tu sais, ils viennent à mes premières, mais c'est pas les... Ils suivent pas ma carrière, ils sont... Tu sais, quand on se revoit... Non, mais quand on se voit à pêche, tu sais, je prends des nouvelles d'eux autres, je suis pas plus leur carrière. On est tous sur le même point d'égalité. Là, ouais. On part, puis on fait, c'est quoi qu'il y a neuf dans ta vie, c'est quoi... Mais c'est comme si c'était la veille, tu sais. Pour moi, c'est ça, l'amitié. C'est pas nécessairement de... Je veux pas des groupies dans ma vie, je veux des amis avec qui je peux compter ma vraie vie, là, tu sais, ouais. Ce que j'ai en dedans. Là.
Mais n'en demeure pas moins que des fois, c'est weird, tu sais. Tu te dis, OK, t'as peu, ces gens-là, ils vivent comme dans des vases clos, là, tu sais. Son chum, c'est Billy Tellier. Moi, je suis mécanicien. Puis là, toi, tu viens de faire un gros spectacle, ta première. Dans le journal de Montréal, on parle de Billy Tellier. Dans la presse, on parle de Billy Tellier. Puis toi, t'es à la pêche, puis eux autres, c'est en calice,
ben. Ben, ou ils essayent de montrer qu'ils sont en calice, tu sais.
Ah, peut-être.
Peut-être qu'ils jouent cette game-là aussi parce qu'ils veulent pas, tu sais, ils savent que je m'en fais parler souvent, fait que peut-être qu'ils décantent de ça. Ouais. Je sais pas c'est quoi leur milieu de vie tous les jours. Enfin, comme, ah ouais, comment va Billy? Ah, puis Billy, ou Billy, pourrais-tu venir faire un show? C'est probablement qu'ils se font achaler comme ça aussi de leur côté.
Il te reste-tu des rêves à atteindre dans ta carrière? Parce que là, ça fait déjà quelques spectacles que tu as. Tu vas être en spectacle le 20 février prochain. C'est pas le dernier spectacle que tu as monté. J'imagine qu'il y en aura plein d'autres. Mais y a-tu d'autres choses que tu rêves de faire comme projet?
Ben, c'est sûr que j'ai pas mal touché à beaucoup de choses, mais je te dirais le cinéma, la télé encore, jouer, j'aimerais ça, écrire pour la télé, écrire.
Ah ouais?
Moi, j'aime encore les sitcoms. Hein. Je sais que c'est pas en mode, mais moi, je trouve que les sitcoms, il y a encore quelque chose de magique. J'ai tellement adoré ça. Je pense qu'il y a encore de la place pour ça. Ouais, bien monté, bien fait.
Un gars, une fille, c'est-tu un sitcom?
Pas en tant que tel, mais ça reste quand même de l'humour du tac au tac. Ouais. Il y a quand même un bon rythme.
Guilla s'est rendu extrêmement riche avec un gars, une fille.
Mais c'est ça qui est absurde. C'est que toi, en tant qu'auteur, tu arrives souvent avec des projets.
Ouais.
Puis les producteurs font comme « Ah ouais, mais non, mais on cherche quelque chose de... ça a déjà été fait. L'homme-femme, là, ça a déjà été fait. On cherche quelque chose de... » Puis t'es comme « Ouais, mais... » Regarde dans toutes les émissions qui ont marché là, à travers le temps, là, l'amitié,
oui,
les relations amoureuses, tu as l'impression que ça, c'est tout le temps ça qui cartonne. On revient tout le temps à cette base-là. C'est nos craintes à nous, tu sais. Fait que souvent, les producteurs veulent brasser l'affaire puis aller ailleurs puis trouver donc des concepts incroyables. Puis, mais t'es comme, non, mais...
Un gars, une fille, c'est simple. Là.
L'humain,
ça a vraiment bien fonctionné.
Tu sais, Friends, là,
ouais,
c'est des amis. Là.
Ouais, puis je l'écoute encore une fois de temps en temps, Friends.
Tu sais, ça vieillit pas, ces affaires-là. Ouais. Ce côté-là de la vie de tous les jours, là. Moi, je pense que si on fait encore confiance à ça, ça va marcher. Après ça, c'est les textes. Tu peux mettre ce que tu veux dans les textes. Tu,
ouais,
peux être original dans tes textes. Mais la base, ça peut quand même être quelque chose que tout le monde vit.
Mais faire du cinéma ou encore faire du théâtre comme tu as déjà fait au cégep, des sitcoms, je trouve qu'il y aurait de la place pour ça. Mettons, si tu avais à choisir Billy Tellier, là, quel genre de casting qu'on pourrait te donner au cinéma, mettons? Le même que Sylvester Stallone ou l'ami moderne à l'école, mettons?
Je pense que j'aimerais être un vilain.
Un vilain?
Un petit vilain. Non, mais tout le temps,
ouais,
c'est tout le temps le casting, c'est, tu fais comme « Ah ouais, OK, je comprends pourquoi lui est méchant. »
Ouais.
Fait que j'aimerais ça.
Tu, ouais, pousses-tu un peu pour ça ou t'attends qu'on cogne à ta porte?
Ah, je pousse pas tant. Tu sais, peut-être éventuellement, je vais le faire, là, tu sais, ayant quitté la radio, faisant de la tournée. Mais c'est tellement un autre milieu. C'est tellement un milieu, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent être à la télé. Il y a beaucoup de gens,
ouais,
qui veulent faire ça, tu sais.
Les budgets sont de moins en moins là aussi.
Aussi, on va avoir tendance à...
Puis toi, tu charges cher.
Ah, oh, j'aimerais ça. Mais on a tendance à reprendre aussi les gens qui fonctionnent parce que tu ne veux pas prendre de risques. Parce,
ouais,
qu'il ne faut pas que tu te trompes parce que c'est ça, il y a moins de monde qui écoute. Donc, il ne faut pas que... tu perds ces gens-là.
Ouais. Ah, mais écoute, je te le souhaite. On termine avec ça, mon ami. Le thème de ton spectacle, c'est quoi?
C'est la chose s'appelle Kiké la ruche et c'est ma peur de faire des choix.
Kiké la ruche?
Ouais. Ma peur de faire un mauvais choix qui va m'amener plein de petites conséquences que j'avais pas prévues.
OK.
Donc, c'est ma peur de faire des choix différemment à travers ma vie. On parlait de choisir d'être une bonne personne. Je me remets en question. C'est-tu vraiment une bonne idée d'avoir été une bonne personne toute ma vie alors que les trous de cul mènent le monde? Mes enfants, tu sais, tout le monde te dit tu vas traumatiser tes enfants dépendamment du choix que tu vas faire.
Ouais.
Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, en tant que parent? Faut-tu que j'écoute les livres ou faut que j'y aille avec mon instinct? J'explore les choix que ma mère a fait pour moi aussi avant, qui n'étaient pas du tout les mêmes conséquences. Pas les mêmes conséquences, mais les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. On a cette pression-là. Là, tu sais, à chaque jour, quelqu'un dit « qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec tes enfants? » Puis j'explore aussi mon côté à moi qui est de ne pas avoir d'opinion. Je réalise qu'en vieillissant, je n'ai pas besoin de donner mon opinion sur tout. Et on vit dans une société qui est complètement l'inverse,
ouais, de ça. Ça dépend du métier que tu fais aussi, là.
Ouais, 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 peut-être.
Des fois, quand ils te payent pour ton opinion puis t'en as pas, c'est un peu plus compliqué, complexe.
Là. Je comprends. Ouais. Mais
tu sais, quand on te demande, le gros orange, l'autre bord, là, qui a dit que si il allait à Gaza, il allait éradiquer toute forme de vie, déporter les Palestiniens puis faire un beau gros Trump Hotel.
Puis un golf.
C'est ça. Je veux dire, ça pourrait pas exister dans un film parce que tu te dis c'est beaucoup trop poussé. Mais nous autres, ça nous arrive actuellement.
Ben, tu vois, c'est ça qui est absurde. C'est,
ouais,
lui, il mène le monde, puis il a la belle vie. Là.
Ouais.
Il est heureux, puis ben, ça va bien. Là.
Il doit être gentil avec Mélania là, pour qu'elle soit avec. Là. À moins que ce soit pour d'autres raisons.
Ben,
là,
voyons, tu penses que ça pourrait être pour d'autres raisons?
Ouais,
voyons.
Je sais pas. Il y a de la prestance.
Ils ont l'air tellement amoureux.
Oui. Fait que Kiké la ruche, je, ouais, trouve ça franchement intéressant. Puis ça, c'est un spectacle qui dure à peu près combien de temps?
On parle d'une heure 25, une heure et demie, là, à peu près.
Une heure 25, puis là, tu fais le tour du Québec avec celle-là?
Ouais.
T'as-tu l'intention un jour d'aller t'essayer ailleurs?
Ah, pas tant.
Non. La France?
Je l'ai fait. J'ai fait quelques choix en France. Ça va bien, mais c'est tellement un endroit où il faut que tu te donnes puis que tu ailles habiter là-bas. Puis si tu veux vraiment faire ça, il faut que tu te donnes à 100%.
Ouais.
Que j'ai... Tu sais, avec deux enfants, j'ai pas ce besoin-là.
Anthony Cavallin le trouvait dur. Là. Tu sais, aujourd'hui, il est très heureux de toute sa carrière. Mm-hmm. Là. Mais lui, il était vivre en France. Puis après ça, il revenait avec un accent.
Ouais.
Puis là, les gens... paniquait parce que mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Anthony? T'sais? Aujourd'hui, il peut dire qu'il y a eu une super de belle carrière, mais oui, ça peut être stressant aller vers la France, entre autres. Là.
Les gens ne comprennent pas justement quand tu vois un Stéphane Rousseau, là, c'est plateau d'entrevue, puis il parle un peu à la française, puis il se dénature, mais Non, ils se dénaturent pas. C'est juste qu'à un moment donné, t'es tanné de te faire reprendre aux 4 secondes quand t'es en France. T'es, on comprend rien. Puis là, t'es comme, OK, gars, je vais juste en redonner un peu plus pour qu'ils puissent venir voir mon show puis m'aimer. Là. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de t'adapter un petit peu.
Parlant d'aller voir ton show, moi, j'ai eu un 60 minutes avec toi assez concluant. C'est clair et net que je vais aller voir ton show le 20 février prochain à la salle Albert Rousseau. Ça a été une belle rencontre.
Merci.
Quand tu repasses à Québec, si ça te tente de venir faire un tour en studio sur l'heure du midi ou encore un autre Marceau soir, on trouvera quelque chose à chialer. Là.
Génial.
On te demandera ton opinion sur le Grand Orange l'autre côté.
T'sais. Avertis-moi, je vais en trouver une.
Ça a été un plaisir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 puis on se reparle demain, 10h, avec Pascal. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Hey, m'a vous conté quelque chose. Cet hiver, je suis sorti en pantoufles dehors pour aller porter la récup. J'ai perdu pied, puis patauf sur le dos. Bang! Une chance que mes chums de PCN étaient là pour m'arranger le dos, là, parce que là, j'avais plus de fun. Vous allez entendre plein d'histoires comme ça dans Gravel dans le retour. À aller inscrire au blvd.fm. Vous pourriez gagner une prise en charge en physio pour vous garder top shape. Toi, c'est quoi ton histoire? Boulevard et PCN vont t'arranger ça. Le tournoi Pee-Wee célébrera sa 65e édition du 12 au 23 février. Venez encourager les 120 équipes. Tous les détails et billets au tournoi pee-wee.qc.ca.
En way dehors au Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. 6 soirées sur la scène Loto-Québec.